Espace 2. La vie côté culture. La vie côté culture.
Les animaux ont une place de première dans les Écritures saintes. Raphaël Paquet se penche cette semaine sur un ouvrage paru il y a quelques années sous le titre « Le bestiaire de la Bible » en compagnie de son auteur Jean-François Froger. Alors hier nous parlions du serpent, aujourd'hui nous suivrons les animaux du sacrifice, le taureau, le bouc et l'agneau. Avis d'esprit réalisé cette semaine par Françoise Yenny. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour.
Avis d'esprit. Fabien Hunenberger.
Raphaël Paquet, bonjour.
Bonjour Fabien.
Alors on va parler des animaux en votre compagnie aujourd'hui, puisque c'est de cela qu'il s'agit cette semaine dans la vue d'esprit, de comprendre l'enseignement spirituel, attiré de la présence des animaux dans le texte biblique, de leur attitude aussi. Alors toujours autour de ce livre qui vous a servi de fil rouge, on rappelle le titre, le bestiaire de la Bible.
Oui, faire parler les animaux, certes, mais en prenant garde de respecter leurs limitations physiologiques, partir de leur réalité. C'est d'ailleurs un des enjeux du dialogue entre les deux auteurs de ce livre. À côté de l'exégète Jean-François Froger, il y a le zoologue Jean-Pierre Durand.
Alors hier c'était le serpent, aujourd'hui ce sont les animaux du sacrifice, on l'a dit, des animaux qui prennent, on va dire, place dans l'itinéraire religieux du croyant.
Oui, d'où le rappel que fait notre invité sur le fil rouge de ce bestiaire de la Bible, à savoir que le monde animal est comme un miroir de la vie psychique de l'homme.
Le fil rouge, c'est globalement l'hypothèse que le monde animal est le miroir, en quelque sorte, pour nous, de la vie psychique. Non pas de la vie spirituelle, mais de la vie psychique. Alors, par quoi on le voit? Eh bien, ça s'appuie dans l'écriture même, dans le récit de la Genèse, où l'on voit que dans le processus de création de l'homme, il y a d'abord le façonnement à partir de la poussière de la terre, comme vous savez. Ensuite, l'homme est mis dans un jardin planté d'arbres et Dieu fait défiler devant les yeux d'Adam un Adam qui n'est pas encore différencié sexuellement, puisqu'il n'y a pas encore eu ce sommeil profond où on va tirer cette partie d'Adam qui va donner Isha. Tiré de Ish, l'homme et la femme, en fait, tirés d'Adam, de l'Adam primordial. Alors cet Adam primordial, donc, c'est la nature humaine qui n'est pas encore à l'état différencié, ou qu'on considère comme n'étant pas différencié. Et là, il y a un travail de nomination des animaux. Tous les animaux défilent. Alors, à quoi peut bien servir une telle opération? C'est que, pour que l'homme soit homme, donc c'est un moment de la création de l'homme, il faut qu'il puisse avoir un rapport intelligent avec le monde. Pas simplement qu'il voit les choses, qu'il les ressente, qu'il les sente, enfin donc avec tous nos cinq sens. Et il faut qu'il puisse les nommer. Or, pour nommer quoi que ce soit, il faut constituer des classes d'analogie, qu'on peut examiner en logique. Mais ça fait découvrir à l'homme qu'il est capable de quelque chose qui ne relève pas du monde sensible. Donc c'est le monde qu'on va appeler intelligible. Les anciens faisaient bien la différence entre les deux. Et que nous utilisons, nous, habituellement, dès que nous parlons, justement. Et cette opération de nomination, qui est le fait qu'on puisse parler du monde et de nous-mêmes et de Dieu, le fait que nous soyons munis de parole. C'est quelque chose de très extraordinaire et qui spécifie l'homme, parce qu'il y a bien des langages animaux, mais il n'y a pas la parole. On va voir la différence. Et il se trouve que Dieu aurait pu demander à l'homme de nommer, par exemple, les arbres, puisque, non, les animaux. Alors, quel est le but de l'opération? Il est de prendre conscience de toutes les figures analogiques qui constituent sa vie psychique, pour découvrir que toute la vie psychique n'est pas la totalité de l'homme. Il va se trouver seul, comme on dit, l'évado. Il va se trouver seul et c'est une opération divine, qui n'est donc pas une opération intellectuelle humaine, en jetant un sommeil profond sur Adam, qui ensuite, par un réveil, va lui faire prendre conscience que la femme qu'il va voir en face de lui, comme il a vu les animaux, ah, cette fois-ci, ça n'est pas son miroir, c'est quelque chose de plus intérieur. Et c'est pourquoi, par exemple, la femme va être le modèle même de ce qui est révélé de l'intériorité humaine. Alors que les animaux, de son intériorité inconnaissable par lui-même. Autrement dit, c'est pas nommable d'une certaine façon. C'est innommable tellement c'est profond. Mais, donc la mise en face de l'homme, de la femme, donc la différenciation sexuelle, est dit ainsi comme le lieu de la révélation. Et c'est ce qui donne le sens et la dignité à la sexualité humaine, qui n'est pas, donc, du coup, une sexualité animale. Même si, physiologiquement, il y a beaucoup de choses qui ressemblent, nous le savons, et tous les hommes l'ont toujours su. Mais qu'est-ce qui est spécifique? C'est que la sexualité humaine va être le lieu d'une révélation, et par conséquent, va être immédiatement sacralisée. Alors c'est très important, et donc, revenons aux animaux, toute la vie psychique, c'est-à-dire le rapport que l'homme a avec le monde, au niveau des sens et au niveau de l'élaboration du langage, ça c'est la vie psychique, est reflété dans l'analogie des animaux. Et ça, tous les contes anciens, toutes les fabulistes, toute la sagesse de tous les peuples, a toujours utilisé des figures animales pour décrire la vie psychique humaine. On dit se conduire comme un ours, et tout le monde comprend ce que ça veut dire, même quand on n'a pas vu un ours, ce qui est très extraordinaire. Hein. Ou être un vrai serpent, ou être un petit coq, tout le monde comprend ce que ça veut dire.
Et on dit aussi d'un animal qui ne lui manque que la parole.
Voilà, parce que ça n'est pas un homme. Et cela veut dire une chose très précise. Ça veut dire que la parole n'est pas une œuvre de la vie psychique. Ça prend sa racine dans la vie spirituelle, c'est-à-dire dans le rapport à Dieu et aux anges, au monde archétypal. Donc le récit de la Genèse nous instruit au niveau de la structure de ce qu'est l'homme d'une façon très extraordinaire.
Il y a le récit de la Genèse, Jean-François Froger, il y a le récit du déluge, qui est une nouvelle alliance avec, entre l'homme et la création. Et puis se déclinent tous les animaux que nous découvrons avec vous. Hier, le serpent, aujourd'hui, le bouc, l'agneau, le taureau. Des animaux qui ont rapport avec ce mystère du sacrifice vécu dans les traditions anciennes et qui se perpétue encore aujourd'hui.
Tout à fait. Là aussi, nous touchons un point essentiel de la structure même de l'homme. Alors, vous avez fait allusion au déluge. Vous savez que le déluge, c'est un châtiment. L'homme étant devenu si méchant que Dieu prend la résolution, dit l'Écriture, de faire tout disparaître sur la terre. Sauf un couple. C'est-à-dire le couple de Noé, de sa femme, et tout de même ses trois fils et leur femme. En tout, 8 personnes. Et la chose est si importante que cela est rapporté encore dans le Nouveau Testament, dans une épître de Pierre. Donc il faudrait faire attention à ça. Or, le déluge a à voir avec les animaux, bien sûr, puisque ce qui est demandé à Noé, c'est de construire une arche, enfin une espèce d'immense caisse, pour y faire entrer tous les couples d'animaux avec lui, et attendre que ça passe. Alors, tout est noyé par ce déluge, sauf alors le couple de Noé et ses trois fils, et de ses trois fils, donc 4 couples en fait, et tous les couples d'animaux. Et même des animaux purs, on prend 7 couples. Alors pourquoi on prend des couples? Bien pour sauver l'espèce. Autrement dit, le déluge ne détruit aucune espèce animale. Tout est sauvé, paradoxalement. Alors pourquoi le déluge? Eh bien, c'est un châtiment. Donc la grande règle dans l'Écriture, c'est de voir que le châtiment et la correction d'une erreur. On barre l'erreur et on met la bonne solution à la place. Donc c'est pédagogique, c'est thérapeutique. Alors quelle est l'erreur derrière ce châtiment? Eh bien le déluge, donc tout est recouvert d'eau. Donc d'une certaine façon, on revient à la case départ. Quand l'Esprit de Dieu planait sur les eaux et qu'il n'y avait rien du tout. Donc dans un certain état d'indifférenciation et de confusion. Et de quoi ça guérit? Eh bien, c'est homéopathique, on guérit la confusion par la confusion. On dit, vous ne comprenez pas à quel point vous êtes entré dans la confusion et l'indifférenciation. Donc, on vous met le nez dessus, en quelque sorte. Vous voyez, il n'y a plus rien, ça noie tout. Alors, qu'est-ce qui est cette noyade générale? Eh bien, justement, l'omnipotence de la vie psychique. S'il n'y a en nous que de la vie psychique, qu'un rapport au monde sensible, nous sommes dans le déluge. Et effectivement, nous sommes saturés d'images, soit par notre vie sensible, soit par notre imaginaire, parce que ça tourne très rapidement à l'imaginaire. Et c'est d'ailleurs un des malheurs de notre époque. Nous sommes dans un déluge d'images, n'est-ce pas? Et du coup, l'espace pour la parole humaine qui est issu d'une concordance avec l'intelligence et l'intelligence divine. En nous n'a plus la place de se poser et de s'exercer. Et par conséquent, il y a une confusion des langues. Mais pour nous aussi, il y a une confusion des langues. Dans notre propre langue, est-ce que nous nous comprenons si facilement? Non. Pourquoi? Parce que chacun va investir le langage de son sentiment, de son senti, de son expérience. Or, l'expérience est propre pour chacun. L'expérience sensible. Et donc, le langage ne signifie plus la même chose pour chacun. Donc, il n'y a plus de communication. Si on ne parle que de nos sentiments, il y a une guerre de tous contre tous. Puisque mon sentiment doit être reçu par les autres. J'envahis les autres avec mes opinions et mon ressenti, comme on dit aujourd'hui. Alors, où peut-on communiquer? Mais quand ça devient intelligible? Parce que ça, c'est commun à tous les hommes. Ça ne dépend pas de l'individu, c'est l'accord que l'homme a avec le Logos éternel, qui est la source de la parole en nous-mêmes, et qui va nous permettre alors même de parler de notre senti, mais de façon intelligible et comme un cadeau à l'autre, et non pas comme un envahissement.
Et là vous faites le lien entre l'intelligible et l'inspiration.
Tout à fait. Alors notre intelligence, s'il est provoqué en quelque sorte par les sens, parce que tout ce que nous voyons demande un sens aussi. Vous voyez, j'emploie le mot à deux étages différents. Mais notre intelligence s'illumine lorsqu'elle est en accord avec l'intelligence divine. Et il y a un intermédiaire en quelque sorte, parce que Dieu crée tout pour que nous ayons besoin de tout, et nous avons besoin du monde angélique, qui est le lieu de l'illumination de l'intelligence. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont découvert quelque chose savent qu'ils ont été inspirés, que ça ne vient pas d'eux, mais que leur intelligence s'est illuminée comme une vitre qui reçoit un rayon de soleil. Et le soleil n'appartient pas à la vitre. Et la lumière n'appartient pas à notre intelligence, mais elle est capable de le recevoir. Et du coup, d'illuminer et de donner une certaine splendeur même à ce que nous voyons et qui est comme l'ombre de la réalité.
Jean-François Froger, dans cette démarche, dans ce rapport de l'homme avec l'animalité, avec sa sensualité, avec son intelligibilité, il y a cette place du sacrifice, de l'animal sacrifié pour un sens. Alors le taureau, l'agneau, vous avez un chapitre qui s'intitule « Du sacrifice en général et de l'agneau égorgé en particulier », alors ça traverse toute la Bible.
Tout à fait. Alors voilà, nous sommes à même maintenant de parler du sacrifice. Parce que Noé, après le déluge, reprend pied à terre, il fait descendre tous les animaux, bien sûr, donc il y a une reconstitution complète de la nature, mais le premier acte de Noé, c'est de faire un sacrifice d'action de grâce à Dieu. Et il utilise pour ça des animaux qu'il égorge. Le sacrifice étant essentiellement de faire paraître le sang.
Et là, cette attitude d'action de grâce, elle traduit justement la démarche du sacrifice. Et comment et pourquoi sacrifier un animal, en l'occurrence, prenons le taureau, puisqu'il en est question.
Pourquoi un taureau? C'est l'animal sacrificiel par excellence. On verra. Il y en a plusieurs. Il y a toute une série d'animaux qu'on peut sacrifier. Mais le plus sacrifiable de tous les animaux, c'est le taureau. Pourquoi? Bien, vous avez remarqué qu'un taureau, c'est un animal à la limite sauvage, à la limite domestiqué. Ils sont domestiqués, mais ils conservent tout ce qu'il peut y avoir de sauvage dans ce qui est domestiqué. Donc il y a deux catégories, là. C'est un animal limite, d'une puissance remarquable, d'une beauté, d'une splendeur aussi, et dont la seule capacité dans la vie, si j'ose dire, c'est d'inséminer une vache. Donc, on ne peut pas le mettre au travail. Un bœuf, on peut le mettre au travail, mais un taureau, non. Alors, il faut regarder la chose par analogie, bien sûr. Donc, c'est une puissance inséminante. Qu'est-ce que c'est qu'inséminer? C'est donner l'information pour que la vie ait lieu dans une matrice quelconque. Eh bien, c'est une figure de la puissance créatrice de Dieu. Et c'est pourquoi la figure du taureau était révéré, sinon adoré, dans les cultes égyptiens. La sacralisation ressemble beaucoup au sacrifice, puisque d'une certaine façon, à chaque fois, on renonce à l'usage d'une chose. On l'offre. Alors, le sacrifice lui-même va consister à faire couler le sang. Donc, il faut égorger le taureau, ce qui n'est pas une mince affaire. Donc, il faut un temple, il faut des prêtres. Parce que celui qui sacrifie agit en quelque sorte au nom de Dieu et au nom de l'homme. Donc on institue une fonction médiatrice. L'homme ne peut pas sacrifier par lui-même. Pourquoi? Parce que il faut qu'il soit pur et il faut que l'animal soit pur. Alors qu'est-ce qui va purifier? Celui qui n'a pas de mélange. Donc un homme ordinaire, il est dans le mélange. Justement, et c'est pourquoi il doit en sortir. Il doit re-instituer en lui-même les distinctions nécessaires pour qu'il soit homme, pour qu'il soit intelligent, pour qu'il soit dans la vie spirituelle. Alors, on va instituer rituellement un homme pur, peut-être qu'individuellement il n'est pas plus que les autres, mais rituellement il va l'être, pour pouvoir sacrifier. Et donc on va le séparer des autres. Et ça va être une espèce de sacrifice aussi d'ailleurs, parce qu'il va être sacralisé, distingué de tous les autres, pour pouvoir être le sacrifiant. Alors c'est toute une logique interne de l'homme qui va, par ses actes rituels, signifier la clarté dans laquelle il doit rentrer. Alors pourquoi égorger? Pour faire paraître le sang. Il n'y a pas de sacrifice qui ne fasse paraître le sang. Pourquoi le sang? Eh bien, parce que c'est ce qu'il y a de plus intérieur dans le vivant. Et dans l'Écriture, on le dit « nefesh badam », c'est-à-dire l'âme psychique. C'est pas l'âme spirituelle. L'âme psychique est dans le sang. Autrement dit, ce qui nous anime est comme le sang qui va dans toutes les cellules du corps. Donc l'âme psychique, c'est notre corps animé. Et d'une certaine façon, on prend la partie pour le tout, et donc on fait paraître ce qu'il y a de plus vivant en nous. La chair est toujours en train de mourir, en quelque sorte, si le sang n'y circule pas. Le sang, ça va être le nec plus ultra de la vie, et il symbolise, par analogie, la grâce divine. Donc, on va faire paraître, dans le sacrifice, la grâce divine. Et c'est pourquoi, par exemple, le sang du Christ est le porteur de la grâce divine, pour nous. Donc on verra qu'il y a des rituels très importants qui sont les rituels de l'Eucharistie. Mais c'est le même rituel que le sacrifice du taureau, en changeant tout ce qu'il faut changer, bien sûr. Donc l'homme va choisir le taureau parce que le taureau, c'est la puissance inséminante. Pourquoi faut-il le sacrifier ? Pour ne pas confondre la puissance inséminante de l'homme avec celle de Dieu. Autrement dit, il faut avouer que Dieu est Dieu. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, étant à l'image de Dieu, nous avons tendance à nous confondre avec lui. On dit, ah, mais c'est impossible, Dieu tout-puissant, au ciel et tout. Ça, c'est des paroles. Dans la réalité, nous sommes si proches de la divinité que nous avons la grande tentation intérieure et inconsciente de fabriquer le Dieu que nous adorons. Or, le sacrifice, c'est la défabrication du Dieu que nous adorons. Le sacrifice du taureau va empêcher l'idolâtrie. Donc c'est une guérison en même temps, une action de grâce, parce que dès qu'on dit « j'ai reçu un cadeau », eh bien on avoue en même temps qu'on n'est pas l'auteur du cadeau, qu'on est le récepteur. Alors, je sacrifie la vie animale qui m'est extrêmement précieuse, c'est mon substrat. Ça veut dire « ce qui me fait vivre, je l'ai reçu ». Ce n'est pas moi le créateur. Parce que le taureau, par ailleurs, représente la lettre Aleph dans l'alphabet hébraïque, qui est la première lettre, va symboliser la source de tout archétype qui fait être les choses. Alors, il est créé, le taureau, mais il va être le signe sensible d'un monde spirituel qui, du monde des anges, des séraphins, des chérubins, des trônes, enfin, etc., toutes ces puissances intelligibles qui sont directrices des formes du monde et qui sont elles-mêmes au service de Dieu, sauf celles qui sont révoltées. Et c'est pourquoi tout sacrifice n'est pas bon. Il faut que ça soit dans l'ordre de la vérité et dans l'ordre de la pureté vraie, parce qu'on peut sacrifier à une idole. Et c'est ce qui ne manque pas d'arriver. Donc toutes les religions ne sont pas bonnes. Il faut regarder l'essence même du sacrifice et à quel Dieu ça s'adresse.
Il y a le taureau, Jean-François Froger, il y a l'agneau, puisque ce même chapitre se réserve à l'agneau égorgé en particulier, et là on traverse bien sûr les deux testaments.
Bien sûr. Alors d'abord, le sacrifice de l'agneau est institué par Moïse, c'est le service quotidien du temple, le matin et le soir. Donc il y a deux sacrifices qui sont des holocaustes quotidiens. Et bien sûr, par exemple, Jésus va offrir sa vie le jour de Pâques, où il y a l'agneau pascal supplémentaire à l'agneau quotidien, qui va rappeler évidemment l'Exode, et le sacrifice que les Hébreux ont fait en étant libérés de l'esclavage d'Égypte, donc, et en répandant son sang sur les linteaux des maisons, etc., qui vont les protéger d'un châtiment divin. C'est-à-dire, si on fait le sacrifice, on n'est pas dans la faute, donc il n'y a pas de châtiment. Les autres ne font pas le sacrifice correctement. Alors le gros problème, c'est qu'est-ce qu'un bon sacrifice? Alors l'agneau a une autre spécificité que le taureau. L'animal est très différent. Et il a cet avantage de cette figure de la douceur, d'un être paisible. Surtout un agneau d'un an, donc qui n'est pas encore mûr. Donc c'est quelque chose qui va chercher, au niveau symbolique, du côté de la libido humaine. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande de sacrifier? Et cela, éternellement, parce que on va retrouver jusque dans l'Apocalypse l'agneau égorgé, qui trône dans la Jérusalem céleste. Donc Jésus est ressuscité, bien sûr, mais sa figure sacrificielle va demeurer jusque dans l'éternité. Donc on atteint par là quelque chose de divin. Et alors, lorsqu'on travaille sur la fonction symbolique de l'agneau et qu'on l'égorge, alors premièrement on comprend ce flux de grâce qui vient du sacrifice, il y a une espèce de paix extraordinaire qui s'établit, et il y a le renoncement à la libido. La libido, ça veut dire j'aime, mais j'aime quoi? Ça veut dire j'aime ma sensibilité. J'aime le rapport aux choses, justement. Alors là, c'est pas dans la confusion avec les choses, c'est dans le plaisir et la jouissance que nous avons des choses. Alors cette jouissance est bonne, sauf si elle envahit tout. La même chose. Sauf si elle n'est pas simplement le marchepied d'une autre jouissance. Donc, nous jouissons du monde et de la beauté des formes pour apprendre à jouir de la beauté du monde intelligible qui elle-même nous apprend à jouir de la beauté spirituelle. Ces choses-là sont si abstraites pour nous, si éloignées, si inimaginables, qu'il faut bien apprendre la beauté par la beauté des fleurs, par la beauté d'une femme, par la beauté d'un arbre. Oui, là c'est notre lieu d'apprentissage. Mais ce n'est pas du tout notre lieu de jouissance éternelle. Or, si nous étions immergés dans la jouissance sensible, nous serions privés d'accès à la jouissance éternelle. Donc la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu. Eh bien, arriver à la connaissance de Dieu est un long chemin. Et toute la vie est le chemin initiatique de la connaissance de Dieu. Alors, il faut donc, une fois que la confusion avec l'animalité est radicalement guérie. Et ça, c'est, on pourrait dire que c'est tout l'Ancien Testament. Tous les sacrifices mosaïques sont faits pour ça. Mais déjà l'agneau. Mais l'agneau va être adopté en quelque sorte comme emblème pour Jésus. Et quoique ça n'est pas la viande de l'agneau qu'on prenne comme instrument de communion à la Sainte Cène. Il partage le repas pascal avec ses disciples. Il mange l'agneau pascal, comme c'est le rituel dans le Seder de Pâques. Mais il va prendre du pain et il va dire « Ceci est ma chair ». Donc il va utiliser quelque chose qui n'est pas de la chair pour en faire sa chair. C'est une opération très extraordinaire, parce qu'il aurait pu prendre un morceau de l'agneau. Comme on voit dans certains rituels bouddhiques, ils prennent un morceau de viande pour communier dans les rituels. Il y a un interdit, donc c'est sacré, donc on va pouvoir l'utiliser pour certains rituels. Eh bien là, ça n'est pas un morceau d'agneau qu'on prend, c'est un morceau de pain.
Les animaux et leur place dans l'alliance biblique au regard des sacrifices. C'était une nouvelle page, Raphaël, de la série que vous nous proposez sur le bestiaire de la Bible, un livre signé Jean-François Froger, paru aux éditions des Iris. Alors demain, Raphaël, on prend de l'altitude puisque c'est la figure de l'aigle qui va nous servir de fil rouge.
Magnifique, oui, l'aigle majestueux, immobile dans ses espaces célestes, lui qui se tient comme face au soleil. L'aigle qui représente dans la tradition l'évangéliste Saint Jean, ou mieux, le Christ ressuscité lui-même, selon le récit de l'évangéliste.
D'accord, alors ce sera une nouvelle page de cette série autour du bestiaire de la Bible. Merci à vous, merci à nos auditeurs pour leur écoute et à demain. Espace 2, c'est l'heure des informations dans quelques secondes, et puis ce sera d'un air entendu. Une très bonne suite d'après-midi sur les ondes d'Espace 2.
Espace 2. Espace 2. Notre adresse internet, espace2.ch.